Eh bien bonsoir, bienvenue dans Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Une émission proposée et animée par Laurent Craven et Chris Lucas. Nous sommes ensemble jusqu'aux alentours de 22h30 pour vous parler bien sûr de l'actualité du cinéma. Nous avons vu des films, on vous en parlera tout à l'heure. L'actualité également du support physique, Blu-ray, DVD, Steelbook. Et puis bien sûr on vous parlera de musique de film. Alors la semaine, non pas la semaine dernière puisque nous avons fait une petite interruption, mais il y a 15 jours, nous vous parlions des meilleurs films de l'année 2025 et c'est vrai que chaque magazine de cinéma y va de son palmarès des films de l'an dernier. Alors je voudrais vous parler un petit peu du palmarès du magazine Mad Movies dont c'est d'ailleurs le 400e numéro 400 déjà, et d'ailleurs Mad Movies à l'occasion a demandé à Christophe Gans d'être le rédacteur en chef invité de ce numéro 400. Alors Mad Movies donc a fait son palmarès, c'est un palmarès quelque peu surprenant, mais moi ça ne m'étonne pas trop de la part de Mad Movies. Alors, en 10e position, Mad Movies a choisi Kaim, ou Shime comme on veut, film japonais, et alors moi je ne l'ai pas vu, donc je ne donnerai pas mon avis là-dessus. En 9e position, un film que Laurent a adoré, il s'agit de Black Dog, un film qui avait obtenu le prix Un Certain Regard au Festival de Cannes. Et c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup qui a fait l'unanimité, hein, à la fois critique et public. Black Dog en 9e position. Dans ce palmarès, eh bien Mad Movies, alors là pour moi c'est quand même une surprise, en 8e position, c'est 28 ans plus tard, que voilà, qui ne m'avait pas personnellement emballé. J'ai été resté un petit peu mitigé après la projection de ce film, qui figure pour moi, c'est peut-être un des bon film de l'année 2025, mais je ne l'aurais peut-être pas mis dans un top 10. En 7e position, on retrouve Une bataille après l'autre, avec Leonardo DiCaprio. Bon, 7e position méritée, je pense, effectivement, pour ce très bon film. En 6e position, eh bien, c'est Avatar, De feu et de cendre. Voilà, qui est pas mal défendu par les critiques de Mad Movies. Il faut dire que je pense que si on n'est pas trop regardant concernant le scénario, parce qu'en fait on voit bien que le scénario d'Avatar 3 c'est le même que le 2, hein, à quelque chose près, eh bien James Cameron s'est filmé, il propose toujours des univers cohérents, spectaculaires. Donc Avatar en 6e position pour Mad Movies. En 5e position, Cloud. Là aussi, film de, je crois, Kurosawa, me semble-t-il. Hein. Voilà, Laurent me le confirme. Donc c'est vrai que chez Mad Movies, Kurosawa, on aime bien. Alors maintenant, je rentre dans j'allais dire le top 5. On a commencé avec Cloud, mais en 4e position, un film qui a aussi recueilli pas mal de suffrages, c'est Sinners, de Rian P. Johnson avec Michael Jordan. C'est vrai que c'est un film fantastique, un film à la croisée des genres, on va dire, qu'on avait beaucoup aimé, nous aussi. Donc Sinners, je trouve que c'est un bon choix de la part de Mad Movies. Le top 3 de Mad Movies, eh bien L'Agent Secret en 3e position, le film avec Wagner Moura. C'est vrai qu'il est arrivé en fin 2025, mais c'est un film assez puissant, qui est aussi un film à la croisée des genres, un film qui parle de cinéma, comme il parle aussi de ce Brésil sous le joug de la dictature, un régime corrompu, mais avec des personnages qui existent, le scénario est vraiment habile. L'Agent Secret en 3e position. En deuxième position, le film préféré de Mad Movies, c'est Substitution, Bring Her Back, une proposition de film fantastique assez éblouissante. Effectivement, on avait beaucoup aimé ce film dans Cinéscopie, et je rejoins totalement les critiques de Mad Movies concernant cette deuxième place. Et alors là, une surprise quand même. Le meilleur film de l'année pour Mad Movies, je l'aurais pas mis dans un top 10, je vous le dis franchement. Je l'ai trouvé intéressant, assez surprenant, mais plutôt expérimental, et c'est pour ça que ça, je trouve ça un peu surprenant de le voir en tête, c'est Reflet dans un diamant mort. Le film de Bruno Forzani et Hélène Katté, qui est un hommage aux films de ce genre que l'on a appelé l'Eurospy, donc ces films d'espionnage comme OSS 117, James Bond, etc. Donc il y a eu, moi je trouve ça assez, un film très, très passionnant, assez intéressant, mais je l'aurais pas mis moi dans mon top 10. Alors maintenant on va évoquer les flops de l'année 2025 pour Mad Movies. Alors en 10e position, Fantôme utile. En 9e position, Piégé, le film produit par Sam Raimi avec Anthony Hopkins et Bill Skarsgård, va chercher son prénom. En 8e position, La Guerre des Mondes avec Ice Cube dans le rôle principal. Alors je crois que c'est le film, le nanar le plus retentissant de l'année, certainement avec Atoman, je crois. En 7e position, alors là ils l'ont mis dans les flops, alors que moi je l'aurais pas forcément mis dans les flops. Ça s'appelle Accident Domestique, un film assez caustique. Et puis en 6e position, Souviens-toi l'été dernier. C'est vrai que Souviens-toi l'été dernier, c'est quand même une déception. Moi j'y suis allé parce que j'avais envie de retrouver un petit peu cette ambiance slasher des années 80-90. Il y a de ça, mais le scénario est quand même assez nul. Et puis le twist final, ouais, non, du grand n'importe quoi. En plus, c'est pas toujours bien filmé, quoi. C'est plutôt un téléfilm. Alors maintenant, le top 5 des flops de l'année pour Mad Movies, c'est assez intéressant. Eh bien, tout d'abord, Superman de James Gunn. Eh bien oui, moi j'aurais peut-être pas mis dans les flops, mais c'est vrai que c'est un film que j'ai pas beaucoup aimé. Ouais, je trouvais ça sympathique sans plus. Ouais, je suis pas un grand fan de James Gunn. Certains films, comme Les Gardiens de la Galaxie, ouais, ça c'était bien. Mais là, ouais, sur Superman, j'ai pas mal de réserves. En 4e position, dans les flops, Mission Impossible, le dernier Mission Impossible, The Final Reckoning. Alors, c'est vrai que là aussi, le scénario est, moi je trouve, pas terrible, franchement. En plus, c'est très 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 long. Il y a deux, trois scènes exceptionnelles, notamment la scène du sous-marin, ou le final avec les avions. Mais bon, à part ça, bon, c'est quand même un peu lourdingue. En 3e position, alors là, j'étais surpris, parce que moi j'ai pas détesté ce film, même si je m'attendais à mieux, c'est vrai. Mais 3e meilleur flop de l'année, Running Man de Edgar Wright, avec Glenn Powell dans le rôle titre. Maintenant on va aborder les deux films les pires de l'année pour Mad Movies. Tout d'abord, Hurry Up Tomorrow, avec l'acteur qu'on appelle The Weeknd, enfin je sais plus son vrai nom d'ailleurs. Et bon, moi j'ai pas vu le film, donc je ne me prononcerai pas sur Hurry Up Tomorrow. Et puis là, c'est pas surprenant par contre, le plus gros nanar de l'année, le pire film de l'année, et là je le rejoins parce que c'est vrai que c'est quand même une catastrophe, c'est Dracula de Luc Besson. C'est vrai que c'est quand même une purge. Voilà, on en a dit du mal, on va pas en rajouter. Et c'est vrai que c'est bien dommage parce que je pense que Besson avait les moyens. Hein, je pense que quand même c'est un film qui a dû coûter cher. Je pense qu'il avait les moyens de faire des choses intéressantes. Mais voilà, il y a aucune originalité. C'est pompé sur le Dracula de Francis Ford Coppola. Et il y a tout aussi une partie de l'histoire qui est inspirée du film Le Parfum, enfin du roman et du film. Voilà, c'est totalement risible. Voilà donc le palmarès des tops et des flops de Mad Movies. Alors je vous engage à découvrir ce nouveau numéro, le numéro 400, parce qu'il y a donc les Christophe Gans, rédacteur en chef invité, et puis justement un dossier consacré au nouveau film de Christophe Gans, Retour à Silent Hill. Il avait déjà réalisé le premier épisode de Silent Hill, et là donc c'est un deuxième volet qui m'a l'air assez passionnant. En tout cas, Mad Movies a aimé. Donc, voilà, on va attendre la sortie du film en salle. Moi, je suis bien hypé quand même. Voilà. Et alors, en plus, si vous achetez Mad Movies avec son DVD, parce que vous pouvez acheter le magazine seul, mais il est parfois accompagné d'un DVD, ce mois-ci, c'est Bloody Bird, un film italien de Michele Soavi, qui, je crois, date des années 80, et c'était plutôt pas mal. C'était un slasher movie assez original et qui montre déjà la maîtrise de son réalisateur Michele Soavi, et qui a confirmé par la suite en réalisant de très grands films, De la Mori de la Morte, entre autres. Et puis voilà, malheureusement on le voit plus trop, parce que voilà, le cinéma italien a été un petit peu enterré par la télévision. Heureusement, de temps en temps il se réveille. Alors là, j'avais un doute, d'ailleurs Laurent, tu pourras me le confirmer, parce qu'il y a quand même un film, moi, qui m'a énormément plu, mais je ne sais plus si c'est fin 2024 ou début 2025, c'est Parthenope, un film qui a par contre été descendu en flèche par la critique, et que j'ai trouvé être un des meilleurs, peut-être le meilleur film de l'an dernier, mais je ne sais plus si c'est 2025. Et puis, puisqu'on parle de Paolo Sorrentino, eh bien son nouveau film va bientôt sortir sur nos écrans, ça s'appelle La Grazia, ça a l'air assez fabuleux là aussi. Eh bien, on l'attend avec impatience, tout comme le film Diamanti, qui se passe dans le milieu de la mode, de la haute couture, et en lien avec le cinéma. Voilà pour ces petites news concernant les magazines de cinéma, les palmarès. Et je me tourne alors vers Laurent, parce que il y a 15 jours, nous n'avons pas évoqué... Bon, mais on va peut-être le faire ce soir, la figure de Brigitte Bardot, parce que de toute façon, Brigitte Bardot est incontournable. On en a déjà parlé dans Cinéscopie, évidemment, parce qu'elle a marqué l'histoire du cinéma. Et Dieu créa la femme, et tant d'autres. En cas de malheur, avec Jean Gabin. Voilà, c'est une actrice qui a marqué son époque, une icône féministe, et puis bon... qui a eu quelques prises de position politique un petit peu fâcheuses, voilà, bon. Il faut pas que ça entache quand même, je pense, le mythe Bardot, parce que c'était quand même, une femme tout à fait exceptionnelle, qui a apporté quelque chose de nouveau dans le cinéma français, et l'image de la femme dans le cinéma français. Alors on va peut-être évoquer Brigitte Bardot, peut-être ce soir, à travers tout simplement la musique de quelques films, on verra. Laurent, tout d'abord, je te dis bonsoir, comment vas-tu ?
Oui, bonsoir à tous, oui, bah ça va parfaitement bien.
Oui.
on revient de un petit voyage, vous voyez, un petit concert, pour tout dire, un concert hommage à Ennio Morricone et Nino Rota, on est enchantés quand même. Voilà.
Et ce d'autant plus que Nino Rota est assez rarement joué sur scène.
C'est ce qui un petit peu nous a motivés pour assister à ce concert hommage, parce que bon, Ennio Morricone est souvent à l'honneur, hein, ça et là. Forcément, c'est un compositeur incontournable. Nino Rota, même si vous le connaissez peut-être pas de nom, mais par les thèmes qui ont marqué le cinéma de Federico Fellini, eh bien, c'est vrai que c'est un compositeur qui aujourd'hui est relativement oublié, et c'est vrai que peu d'hommages et peu de concerts lui rendent hommage et rendent hommage à sa musique. Donc, c'était l'occasion, et donc, du moins, on est quand même assez enchanté parce que tout simplement. Le survol de ces deux grands compositeurs italiens a été vraiment de qualité, je dirais, dans son ensemble.
Le chef d'orchestre Marcello Rota, c'est le neveu de Nino Rota.
C'est le neveu de Nino Rota. On a été bercé sur la musique italienne. Et puis, Morricone n'était pas en reste, c'est vrai. Il y avait un mélange des filmographies des deux compositeurs.
Alors, c'était Sal Playel, on rappelle. Et puis, c'était intéressant, parce que la programmation, évidemment, c'était des films connus, mais pas seulement. Et ça, c'était intéressant, justement.
Et oui, il y avait vraiment un éclectisme. Voilà. Et c'est vrai que l'intérêt aussi, c'est... Enfin, pour nous... aficionados de musique de film, c'est de découvrir d'autres interprétations et pas forcément les plus célèbres. Et donc voilà, ce 2 heures en tout cas de spectacle était d'excellente qualité.
Voilà, on en aurait bien repris une louche, finalement, comme je le dis à la fin. Mais bon, c'est comme ça, mais c'est vrai que ce dialogue entre Morricone et Nino Rota, ça fonctionne bien, finalement.
Ouais, hein.
ouais, ouais. Oui, voilà, bah, donc c'est un bon souvenir, mais c'est, peut-être qu'on aura l'occasion d'écouter peut-être Nino Rota dans l'émission, je ne sais pas, peut-être. Ben, verra. C'est toi qui es aux manettes, hein, qui oui, aux commandes. Oui.
Voilà, et peut-être d'ailleurs qu'on vous diffusera peut-être un extrait du concert. Peut-être pas ce soir, mais voilà.
Oui, d'accord. Bon, bah écoute, avec plaisir, en tout cas.
Bah oui, il faut... voilà. Vous savez que notre souhait, c'est de vous faire partager des interprétations, en particulier live, voilà, d'œuvres que vous connaissez peut-être par cœur. Mais voilà, chaque interprétation est toujours unique, parce qu'il y a un moment... un instant, une orchestration différente. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant de découvrir eh bien, l'appropriation, je dirais, d'un morceau et d'une partition.
Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des solistes qui avaient travaillé avec notamment Ennio Morricone, hein, donc, il y a notamment la soprano Susanna Rigacci, le pianiste Ludovico Fulci.
Fulci, oui, rien à voir avec Lucio.
Hein. Lucio, non. Non, c'est, voilà, c'est vrai que c'était, c'était quand même superbe. On va peut-être y revenir finalement. Allez,
allez, on oui. débute l'émission. Alors, on en a parlé un petit peu, un hommage à Brigitte Bardot. Voilà. Et à travers deux musiques et deux films forcément incontournables. Ce premier film qui remonte à 1956. Qui a été marquant pour Brigitte Bardot parce que c'est la rencontre avec Roger Vadim. Donc ça va modifier sa vie professionnelle mais aussi sa vie privée. Et donc on va écouter la musique de Et Dieu créa la femme, film donc où on retrouvait eh bien Kurt Jürgens aux côtés de Brigitte Bardot. Il y a aussi Roger Vadim hein, en tant qu'acteur. Musique.
Il n'y a pas Jean-Louis Trintignant aussi, il me semble.
Peut-être.
Oui. Et Roger Vadim aussi.
Oui, il y a Jean-Louis Trintignant parce qu'il y a quand même voilà, une scène assez particulière dans le film hein, qui est dans l'anthologie. Et donc, la musique est signée Paul Misraki, dont on va écouter, bien sûr, le thème. De Dieu créa la femme. Et dans un deuxième temps, une musique là encore incontournable, film de Godard, c'est Le Mépris. Le Mépris, le film d'ailleurs qui a bénéficié d'une grande restauration parce que il avait fait, pas l'ouverture, mais en tout cas, il avait bénéficié d'une affiche qui avait été recomposée pour le 60e anniversaire du festival. Et donc, du coup, on va écouter la musique signée par Georges Delerue pour ce film, Le Mépris.
Avec ce thème qui a été repris par Martin Scorsese dans Casino.
Voilà. Donc, on écoute « Et Dieu créa la femme » pour commencer. Et juste après, eh bien, vous en avez le thème du mépris. Allez, tout de suite, hommage à Brigitte Bardot.
Vaya, pasa.
Ahora sí.
Vaya, Polín.
Arriba, Ramón.
Vaya, Ramón.
Polín, Polón.
jeux vidéo.
La rubrique vidéo, quels sont les films dignes d'être achetés par vos soins en DVD, Blu-ray? Eh bien, voilà, c'est tous les lundis soirs aux alentours de 21h20, 21h30. Alors, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors, eh bien, on va commencer par un film japonais. Bon, je marche un peu sur les plates-bandes de Laurent parce que je sais qu'il adore le cinéma asiatique. Bon, vous le savez d'ailleurs. Un film réalisé par Takashi Miike en 1996, Graine de Yakuza. Yakuza, je vous dis Yakuza, c'est mieux. Graine de Yakuza. Alors, c'est quoi le pitch? Eh bien, un Yakuza, père de deux garçons, échoue lors d'une mission et doit payer un tribut afin de prouver sa loyauté envers les autres familles de Yakuza. Pour cela, il doit tuer son fils aîné. 10 ans plus tard, le jeune frère, devenu l'élève le plus intelligent et le plus populaire de son lycée, rassemble ses amis et décide de prendre sa revanche sur son père et tous les autres chefs Yakuza. Mais les méthodes de ces jeunes gens n'ont rien à envier à celles de leurs aînés. C'est ce que vous allez découvrir dans ce film qui mêle l'action, la comédie et une intrigue policière. Graine de Yakuza, un film assez intéressant de Takashi Miike à découvrir chez Carlotta Film en Blu-ray. Alors, il n'y a pas énormément de bonus sur cette édition, c'est un peu dommage, mais le film, eh bien, est disponible et ce serait dommage de s'en passer. Alors, alors là, c'est un film que j'ai bien aimé, un film sorti en 2025. D'ailleurs, on n'en a pas parlé dans les palmarès, dans les tops, mais c'est peut-être pas un film que j'aurais mis dans mon top 10, mais peut-être dans un top 15 quand même, parce que bon, j'ai trouvé le film assez sincère et plutôt bien réalisé. Ce film, c'est Une place pour Pierrot, un film réalisé par Hélène Médigue, avec dans les rôles principaux Grégory Gadebois, Marie Gillin, Patrick Mille, Vincent Elbaz, François-Vincent Telly, Marianne Bassler, Hélène Médigue elle-même, parce que Hélène Médigue, c'est avant tout une comédienne, mais elle réalise aussi des documentaires. Et là, ce film, qui est assez autobiographique, Pierrot, c'est qui? Bien, il a 45 ans, il est autiste et il vit dans un foyer médicalisé. Déterminé à lui offrir une vie digne, eh bien, sa sœur, Camille, le prend chez elle et se met en quête d'un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin sera long, mais c'est la promesse d'une nouvelle vie au sein de laquelle chacun trouvera sa place. Voilà, Une place pour Pierrot, vraiment un film que j'ai trouvé assez touchant et que je vous conseille de découvrir en Blu-ray. C'est Diafana Édition qui vous le propose. Et puis, cette semaine sort le numéro 91 de la collection Make My Day, signé Jean-Baptiste Toré. Et ce numéro 91, pardon, est consacré à un film réalisé par un Britannique, Tony Garnett. Mais c'est un film, on pourrait dire, américain, puisqu'il a été tourné aux États-Unis, c'est Handgun. L'histoire de Kathleen, une jeune femme marquée par une rupture récente et qui, par conséquent, n'est pas prête à s'investir dans une nouvelle relation. Mais ne souffrant pas qu'on lui résiste, Larry la viole et du coup, Kathleen va vouloir se venger. Elle ne voit pour s'en sortir d'autre solution que le meurtre. Donc c'est un film qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle le Rape and Revenge, mais en même temps c'est tout à fait autre chose, et c'est un film beaucoup plus subtil et complexe qu'il n'y paraît. Tony Garnett, d'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que Tony Garnett, il a longtemps été l'assistant de Ken Loach. Donc on retrouve vraiment, il fait dans son scénario des personnages qui existent et des personnages plus complexes que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, c'est un film assez passionnant, comme souvent d'ailleurs chez Jean-Baptiste Toré dans cette collection Make My Day. Et c'est donc Karen Young, une jeune Karen Young, qui joue le rôle principal dans ce film Handgun, C'est chez Canal, bien sûr, dans la collection Make My Day, je vous le conseille. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Alors, bon, il y a un film fantastique qui sort chez Koba Film, en Blu-ray, un Blu-ray simple, là aussi. Ça s'appelle It Feeds, l'histoire d'une jeune fille persuadée qu'une entité malveillante se nourrit d'elle. Un film à voir uniquement, surtout pour son actrice principale, Ashley Green, moi que j'adore, j'aime beaucoup cette comédienne. Et voilà, si je devais acheter ce Blu-ray édité par Koba Film, ce serait pour Ashley Green. Et puis un film d'aventure réalisé par Cy Enfield en 1965, qui vous est proposé par Rimini Édition, en Blu-ray là aussi. Ce film s'intitule « Les sables du Kalahari ». En Afrique du Sud, un petit avion contenant 7 personnes s'écrase dans le désert du Kalahari. Les survivants n'ont pas le choix. Pour survivre, il va falloir s'entraider. Mais lorsque les vivres commencent à manquer, les plus bas instincts des uns et des autres reprennent le dessus. Voilà, un film assez efficace, avec un beau casting, puisqu'on y retrouve Stanley Baker, Stuart Whitman, Susanna York, Harry Andrews, Nigel Davenport, Nigel Kingsley et Barry Lowe. C'est un combo Blu-ray et DVD que vous propose Rimini Édition pour ce film Les Sables du Kalahari. Et bien voilà ma sélection du jour. Donc Graines de Yakuza pour partir au Japon, Une Place pour Pierrot d'Hélène Médic, franchement. Handgun de Tony Garnett dans la collection Make My Day, et puis Les Sables du Kalahari, vous pouvez y aller réalisé par Cy Enfield, et ça c'est chez Rimini Édition. Voilà, eh bien, je me tourne maintenant vers Laurent, qui nous a aussi concocté sa petite sélection du jour.
Alors, des films qui sont déjà sortis, mais il n'y a pas très très longtemps, hein, quand même. Voilà. Ouais. C'est les vagues précédentes pour les fêtes de fin d'année, hein, oui. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres. Et bien sûr, nous n'avons pas pu parler de tous ces films qui sont sortis. Et je voulais quand même féliciter l'éditeur The Jokers, parce que tout simplement, il a sorti toute une collection de films japonais.
Tiens donc.
Et entre autres, une comédie dramatique de Yasuzo Masumara avec Ayako Wakao, Kezo Kawasaki et Kenji Sugarawa. Le titre de ce film, c'est Aozora Musume, que vous avez bien sûr tous compris, jeune fille sous le ciel bleu.
Ah oui, bah, c'est vrai que tu es polyglotte accompli maintenant. Hein.
Et donc, c'est impressionnant. Ce film de 1957, oui. Qui raconte l'histoire. Qui apprenant en fait par sa grand-mère mourante qu'elle est la fille illégitime d'un directeur d'entreprise et d'une secrétaire, eh bien il y a une jeune femme qui décide d'emménager chez son père à Tokyo, mais sa belle famille la traite comme une domestique. Et donc c'est le premier film tourné par le réalisateur avec celle qui allait devenir sa muse, et cette œuvre de commande qui révèle pourtant une grande liberté pour mettre en scène cette version contemporaine de Cendrillon, où rayonne la belle Ayako Wakao, entourée d'une jeunesse largement influencée dans son quotidien par la culture américaine. Et donc, film excessivement intéressant, proposé dans une édition combo Blu-ray et DVD. On le doit donc à cet éditeur, The Joker. Je crois que de mémoire, c'est la deuxième vague cinq ou six films. Et donc, dont ce film en fait partie.
Je peux me rappeler le titre parce que je note sur mes tablettes. Alors, en français de préférence.
Jeune fille sous le ciel bleu. Donc déjà sorti, c'est dans un packaging assez intéressant parce que c'est avec un petit fourreau. Voilà. Moi je vous invite à le découvrir. Oui. Si vous êtes déjà fan de cinéma asiatique, et en plus c'est de qualité au passage, donc c'est plutôt intéressant. Autre film, on va rester dans le cinéma asiatique. qui a bénéficié du prix spécial d'interprétation collective au Festival de Sundance, film de 2024 de Sean Wang avec Isaac Wang, John Chen, Shirley Chen. Ça s'appelle Didi. C'est l'histoire d'un adolescent américain d'origine chinoise qui passe ses vacances entre les attentes familiales, les amitiés changeantes, les premiers émois et les promesses trompeuses d'une adolescence connectée où tout paraît possible. Et donc Sean Wang qui capte l'été 2008 comme une frontière entre deux mondes, celui du foyer mandarin et celui d'un rêve américain saturé d'images et de dépendances connectées. Donc l'âpreté du passage à l'âge adulte y est saisie sans céder à la nostalgie facile, et le jeune Isaac Wang irradie d'un naturel impressionnant. Et si le film s'attarde parfois un peu trop sur ses effets de reconstitution numérique, il séduit par la tendresse de son regard et l'énergie de son temps. On le doit à l'éditeur Condor Entertainment dans une édition, là encore, combo Blu-ray DVD. Et donc, c'est dispo dans une très très belle copie. D'ailleurs, comme celui de Jeune fille sous le ciel bleu, je n'ai pas parlé de la restauration. Elle est quasi parfaite. Donc, vraiment, il ne faut pas se gêner pour vous le procurer. En tout cas, si vous êtes encore, je le redis, fan de cinéma asiatique, c'est vraiment deux films intéressants du moment. Donc, voilà. Et puis, là, par contre, on va changer de registre et on va parler de films de patrimoine français. Film de 1934 dans une collection Gaumont de restauration haute définition pour un film de Jean Dréville avec Harry Bore, Suzy Vernon et Guy Derland. Ça s'appelle Un homme en or. C'est l'histoire d'un petit fonctionnaire informé de l'adultère de son épouse qui décide de passer outre et pour lui plaire, de changer d'allure et de se lancer dans les affaires. Et donc, constituant l'un des premiers films parlant du réalisateur, bien cette adaptation d'une pièce de théâtre un peu daté, qui permet pourtant de se régaler de la composition de Pierre Larquet en ami naïf, mais condescendant du personnage principal campé par Harry Bore, aussi bienveillant que bonhomme, et de redécouvrir la lumineuse Suzy Vernon, une des rares grandes vedettes du muet, qui a pu passer le cap du parlant, ce qui n'a pas été facile. On le connaît d'ailleurs à travers un grand réalisateur-acteur, c'est Charlie Chaplin, où le parlant... le passage au parlant est quand même bien inférieur en termes de qualité que ce qu'il a pu faire quand il faisait donc du cinéma muet. Donc la grande notoriété de...
Oui, alors après il y a quand même les temps modernes et le dictateur.
Certes. Mais c'est vrai que voilà, il est quand même moins à l'aise.
Oui, c'est vrai que notamment dans les années 50, quand il fait la comtesse d'Hong Kong,
qui est quand même
un petit peu en dessous.
Ouais. On continue. Alors, c'est une réédition, là, par contre. Hein. Le film, je crois, qu'avait bénéficié déjà d'une édition en Blu-ray. Et là, c'est une réédition, un grand classique de Nagisa Oshima, avec David Bowie, Ryushi Sakamoto et Tom Conti, musique signée Ryushi Sakamoto, forcément. Film de 1983, c'est Merry Christmas, Mr. Lawrence, ou Furio, hein, titre français, qui raconte l'histoire de l'affrontement dans un camp tenu par les Japonais en 1942, tout en ambiguïté entre deux officiers prisonniers et leur geôlier. C'est du cinéma évocateur et cruel qui brouille les pistes entre la morale, le désir et la politique. Et on le doit à l'éditeur Métropolitane. Donc voilà, dans une belle édition, belle restauration aussi au passage. Peut-être qu'il y a un petit peu de nouveau sur ce qui concerne les bonus, avec un making-of d'époque, un interview rétrospective qui est riche d'anecdotes de tournage du producteur britannique Jeremy Thomas, et un entretien plus récent. Et ça, c'est là où ça peut être intéressant sur l'achat de cette édition, avec le compositeur qui revient sur le grand défi simultané qu'a constitué pour lui de jouer la comédie et aussi de concevoir la bande originale, en évoquant les étapes de son travail. Donc ça peut être vraiment très intéressant dans cette édition-là. Donc voilà, on peut parler aussi... de séries TV, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé.
Oui, c'est vrai. Mais...
Et donc là, pour le coup, on peut parler d'une série qui vient de sortir. Alors, peut-être qu'on peut... l'aspect négatif de la chose, c'est qu'elle n'est disponible, je crois, qu'en DVD. Donc, c'est un petit peu embêtant, en effet.
Je crois que tu avais parlé d'une série il y a quelque temps, mais alors qui est sortie, je crois, en Blu-ray, et même peut-être même en 4K, tu veux me confirmer, c'est Chapeau Melon et Bottes de Cuir, la dernière saison, en fait.
Alors, ouais, il y a eu deux éditions, en Blu-ray et en 4K.
Ah, voilà, c'est ça.
Donc c'est sur les New Avengers,
ouais.
Peut-être qu'on peut espérer que à la fin de 2026, eh bien que Studio Canal se lance dans la restauration des années plus anciennes.
Exactement.
Ça serait peut-être pas mal. Alors peut-être pas l'intégralité, hein, parce que je pense que ça va par
beaucoup
contre.
D'épisodes. Voilà,
déjà que celui-ci est peut-être pas cher quand même. donc c'est vrai que là, si il y a vraiment toutes les saisons, ça va faire très très cher. Mais pourquoi pas, on ne sait jamais. Parce que je crois que c'est Studio Canal qui a les droits en fait sur l'ensemble de la série. Donc là, pour le coup, c'est le jour. Du Chacal, donc la saison 1, qui est édité par Universal Pictures, mais seulement en DVD, ce qui est quand même assez étonnant. C'est une série qui a été créée par Ronan Bennett avec Eddie Redmayne, Lashana Lynch et Ursula Corbero. Qui raconte, hein, parce que ça, bien sûr c'est quand même inspiré du film de Fred Zinnemann, donc le Chacal.
Le jour du Chacal, je crois que ça s'appelait Le jour du Chacal aussi, hein, le film, Day of the Jackal.
Oui, peut-être.
Oui.
Qui raconte l'histoire d'un tueur à gages qui se fait rémunérer pour abattre ses cibles et qui se retrouve confronté à une agente des renseignements britanniques prête à tout pour l'arrêter. Alors, c'est inspiré, hein, parce que l'original, c'est pas ça du tout, mais on part quand même d'un tueur à gages.
Il y a une question dans l'original d'un tueur à gages qui doit éliminer Charles de Gaulle, en fait.
Voilà.
Ouais, simplement.
Et donc, c'est une sorte de remake de ce film de 1973. Mmh. D'ailleurs, au passage, si on fait un peu la rétrospective, il y a eu déjà un remake ce film par Michael Caton-Jones en 1997 avec le duo Bruce Willis. Richard Gere. C'est une adaptation en fait du roman homonyme, hein, de Frédéric Forsyth, qui va crescendo dans le suspense et qui reste d'ailleurs tendu jusqu'à la dernière seconde. Donc c'est un thriller efficace au sein duquel Eddie Redmayne, qui avait joué dans Les Animaux Fantastiques, qui se montre assez bluffant dans le rôle titre. Et donc la saison 1 est déjà disponible. Voilà. Dans un DVD, bon, d'assez bonne facture.
Oui.
Voilà, on peut quand même regretter. Alors peut-être que si vous voulez absolument voir cette série en haute définition, il y a aussi l'import. Je ne sais pas s'il y a une édition qui existe en haute définition, mais ça peut être une solution. Je crois que
c'est pas mal.
Une bonne chose.
Bah, exactement. Alors il y a des choses qui vont arriver. On vous en a un petit peu parlé, notamment ce giallo, la tarentule au ventre noir, et puis le coffret de Zatoichi qui est déjà disponible. Alors pas partout, hein, parce que sur Paris on l'a pu l'y voir. Laurent. Mais je crois que sur certaines enseignes, il ne va sortir que courant février, ce coffret Satoshi, édité par Roboto Film.
Voilà. Alors, c'est vrai que Roboto est un petit peu mieux distribué que ne l'est l'éditeur spécialisé dans le cinéma asiatique Spectrum. Mmh. Mais voilà, c'est quand même sur... dans des, je dirais, rayonnages quand même très spécialisés. Mmh. Et puis, pour ce qui est de la tarentule au ventre noir, il faudra attendre le mois de... je crois, deuxième quinzaine de février, me semble-t-il.
Ouh là là.
Mais bon, ça arrive.
L'impatience grandit.
Ouais, ouais, ça arrive. Mais bon, il y a plein de choses en perspective. Ah oui. On vous en parlera au fur et à mesure. Même dans le cinéma asiatique, il y a quand même des grands classiques qui sont annoncés.
Et chez Artus aussi, il y a des titres intéressants qui s'annoncent.
Voilà, ça va s'accélérer. Le mois de janvier est souvent une petite pause pour les éditeurs. Ils se reposent des efforts qu'ils ont faits pour les fêtes de fin. Et donc, ça va repartir dès février. D'ailleurs, même fin janvier, il va y avoir quand même déjà commencé à avoir quelques titres. Et donc, bien sûr, on vous tiendra informé de tout cela. Voilà.
Ah oui, on compte sur toi, Laurent. Mais c'est vrai qu'actuellement, une petite pause des éditeurs, même d'ailleurs dans le domaine de la musique de film, nos labels préférés pour l'instant, ils sont un petit peu en sommeil. Il n'y a pas grand-chose à l'horizon. Bon, ça va peut-être arriver.
Voilà. Oui, et puis, alors c'est vrai qu'il y a quand même des sorties qui sont annoncées depuis bien longtemps et où la disponibilité n'est pas encore effective. En particulier sur ces sorties de chez Varese, CD Club, qui ne sont toujours pas disponibles, mais qui sont très attendues parce que voilà, elles sont quand même déjà épuisées avant même d'être sorties.
Oui, c'est nouveau maintenant. Voilà,
de deux partitions de Goldsmith, vous en avez déjà parlé, pour Timeline et Medicine Man. Donc, ce sont des ressorties, mais dans des versions deluxe. Et donc, voilà, on attend. Et il y a aussi un autre titre chez Quartet qui était, pas épuisé, mais en tout cas, épuisé, si on peut dire, mais qui allait être repressé. Donc, c'est la musique de Hans Zimmer, ce double album pour ce film Black Rain. Voilà.
Ah oui, en plus, je sais que tu aimes beaucoup la musique du film, le film aussi, formidable.
Oui. J'adore Hans Zimmer, mais surtout, c'est un petit peu comme Morricone, je dirais. Que en fait, il y a des périodes chez Zimmer et donc Black Rain fait partie de cette époque des années, 90, début 90, où en fait il est en pleine formation musicale. Il a déjà de l'assurance, mais voilà, il expérimente, si je puis dire. Et Black Rain est une vitrine vraiment de l'univers musical de la période début 90 chez Hans Zimmer.
Ah bon, on attend ça avec impatience, évidemment. Et puis bon, moi ce que je pense, c'est que Music Box Records, notre label français, va sortir, il y a de fortes chances, la musique du film Christophe Baratier, Les Enfants de la Résistance, composé par Philippe Rombi. Donc on sait qu'il y a beaucoup de scores de Philippe Rombi qui sont parus chez Music Box. Donc j'imagine que ça sera le cas très prochainement, peut-être même la semaine prochaine. En tout cas, j'ai entendu. Alors on l'entend, on peut pas l'entendre pour l'instant sur le net, la musique de Philippe Rombi. Mais si on prête bien l'oreille à la bande annonce, ben on se dit ah ouais, c'est quand même pas mal. Et il y a notamment sur la fin de la bande annonce, il y a une mélodie assez formidable qui est développé. Donc j'attends avec impatience la BO de Philippe Rombi pour ses enfants de la résistance. Ben tiens, on va faire une petite pause musicale puisqu'on parle de musique. Laurent, que nous as-tu concocté à la mi-temps d'émission?
Eh bien, on va écouter. Alors, je suis quand même assez content, faut bien le dire.
Il est content de lui. Ça.
Non, mais cet extrait est magnifique.
Oui.
Je dirai pas combien de fois je l'ai écouté, très certainement des centaines de fois. C'est vraiment la maestria. Je crois que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Mm-hmm. Et un album qui est d'autant plus un chef-d'œuvre parce qu'en fait, ce musicien-compositeur qui a édité en fait cet album sur son propre label. Et en fait, avait décidé d'en faire une version symphonique, enfin en tout cas accompagnée d'une formation symphonique. Ce compositeur est de formation jazz, mais il y en a beaucoup hein, qui sont passés sur le jazz. Mais aujourd'hui, enfin, aujourd'hui il reste quand même un jazzman totalement.
C'est un nom. Enfin,
voilà, c'est imparable. Je veux dire, la famille.
Partie des classiques.
Voilà, la famille Grousine, parce qu'il n'est pas seul. C'est Dave Grousine dont on parle. Forcément, c'est quelqu'un d'incontournable dans le monde du jazz, mais aussi dans le monde de la musique de film, parce qu'il a quand même pas mal travaillé pour le 7e art. Et donc, on a l'embarras du choix pour choisir, on va dire, tel ou tel extrait. Mais c'est vrai que il y a quand même une véritable prouesse, peut-être pour les personnes qui vont découvrir cet extrait, peut-être le réécouter au fur et à mesure pour vraiment bénéficier de toute la substantifique moelle, si je puis dire.
Très bien.
Donc c'est pour la musique d'un film de 1984, réalisé par Oulu Grobar.
Oui, en effet.
C'est Falling in Love.
Ah oui.
Avec, au passage, alors, si vous ne connaissez pas ce film-là, rien que la distribution va vous faire un petit peu saliver, peut-être va vous faire regretter de ne pas avoir vu le film. Meryl Streep, Robert De Niro, Harvey Keitel, Jane Kaczmarek, Diane West. Voilà.
Casting 5 étoiles, hein, ouais. Formidable.
Et musicalement, c'est vrai que l'abord, en tout cas, jazzy, mais avec quand même l'accompagnement symphonique, est vraiment magistral. Je vous invite, si vous découvrez ça et là, en chinant, hein, parce que là, malheureusement, le disque n'est plus disponible, hein, étant donné que la production remonte quand même à 1987.
Oui, ça ne nous rajeunit pas.
Donc c'était sur un album qui s'appelle Ciné Magique, et qui regroupe en fait les thèmes que Dave Grousine avait composé pour des films comme Old Golden Pond, Tootsie, The Goonies, donc Falling in Love, The Champ, Les Trois Jours du Condor, The Drummer Girl, voilà. Donc au passage, parce que c'est vrai que je n'ai pas spécifié l'accompagnement, c'est avec l'Orchestre Symphonique de Londres. Voilà.
Ah, c'est quand même. C'est quand même pas mal. Hein.
C'est pas anecdotique.
Non.
Donc, on va partir pour Falling in Love pour un peu plus de 6 minutes, mais vraiment de pur bonheur. En tout cas, si vous ne connaissez pas, eh bien, j'espère que pour vous, ça sera vraiment que du bonheur pour vos oreilles. Allez, tout de suite, Dave Grousine.
Thank you.
Les films de la semaine, ce soir.
Los Tigres, un film de Alberto Rodriguez avec Antonio de la Torre. Les Échos du passé, film allemand de Masha Chilinski. Et enfin, 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, film réalisé par Nia Da Costa. Voilà les trois films dont nous allons vous parler ce soir. Mais on va commencer peut-être par 28 ans plus tard, Le Temple des Morts, le film de Nia Da Costa. Où l'on retrouve à nouveau Ralph Fiennes, Alfie Williams et Jack O'Connell. C'est la suite directe du film qui était sorti en fin d'année dernière, 28 ans plus tard. Et j'étais un peu circonspect, j'y suis allé parce que c'est vrai que j'ai vu tous les films, mais je n'avais pas été emballé par l'avant-dernier film réalisé par Danny Boyle. J'étais un petit peu ressorti assez mitigé, j'avais pas été très convaincu, en grande partie sans doute à cause du scénario d'Alex Garland. Alors Alex Garland écrit le scénario de la suite, parce que c'est vraiment les films pourraient être diffusés à la suite, littéralement. Alors ce qui est intéressant dans ce nouvel épisode, c'est que l'histoire va se focaliser sur le personnage interprété par Ralph Fiennes. C'est ça justement, Ralph Fiennes, donc qui joue le rôle d'un ancien médecin dédiant sa survie à la création d'un mémorial de l'humanité. Ce fameux temple des morts. Voilà. Et puis on va retrouver un personnage qu'on avait entreaperçu dans le volet précédent, interprété par Jack O'Connell, qui dirige, en fait, c'est le gourou d'une sorte de secte, satanique. Jack O'Connell se prétend le fils du malin. Et la trajectoire de ces personnages vont se croiser et jusqu'à un final assez dantesque, c'est le cas de le dire. Là j'ai quand même trouvé le film assez prenant, assez parce que d'abord j'ai trouvé que Nia Da Costa s'est filmée, elle l'avait déjà prouvé dans Candyman, dont elle avait fait le remake. Et j'étais quand même un petit peu, j'avais un petit peu peur quand même, mais force est de constater que la réalisation, elle fait le taf. Nia Da Costa, il n'y a pas de souci. Et là aussi un très beau travail sur l'image. Je sais plus qui est le chef-op du film, mais là aussi un beau travail sur les images. Donc d'un point de vue formel, le film est plutôt réussi. Et puis il y a quand même le casting qui fait que ça nous emporte. C'est vrai que Ralph Fiennes et Jack O'Connell sont vraiment déments, ils sont tout à fait exceptionnels, et les enfants aussi qui sont dans le film. Et ce qui est prenant, c'est que le film va peut-être plus loin encore dans la violence que l'épisode précédent. Il y a notamment une scène assez éprouvante dans une grange qui... On flirte là avec ce qu'on appelle le torture porn, parce que franchement c'est assez éprouvant, même si, et c'est ça le tour de force de Nia Da Costa, elle n'est pas complaisante, c'est-à-dire que elle en montre mais pas trop, et c'est bien suffisant, c'est-à-dire que le hors-champ et notamment la réaction de certains personnages suffit vraiment à distiller le malaise, et donc ça fonctionne pas mal, sauf que là encore, pour moi c'est le scénario qui j'ai quand même un peu de mal à adhérer au scénario d'Alex Garland, et puis surtout finalement dans ce film il se passe pas grand chose. C'est-à-dire que ça pourrait être un épisode, dans une sorte de saga qui s'appelle 28 ans plus tard. On resserre autour de 3-4 personnages. Une histoire même qui géographiquement aussi est assez circonscrite. Alors pourquoi pas? Alors moi j'ai pas détesté le film. Franchement, j'ai plutôt passé un bon moment. Alors attention entre guillemets, parce que il y a des scènes assez violentes. Et puis on va retrouver aussi le personnage du mâle alpha. Alors je sais plus qui joue le rôle d'ailleurs du mâle alpha, mais c'est un acteur, il est assez balèze. Il pourrait jouer dans un Conan le barbare. Il y a pas de problème. Et là Voilà, si j'ai retrouvé le nom du chef opérateur, c'est Sean Bobbitt, franchement, le directeur attitré d'ailleurs de Nia DaCosta, qui avait signé la photo de 12 Years a Slave. Voilà, donc très très bon chef-op. Voilà. Donc je voulais le citer parce que c'est vrai que la photo est formidable. Voilà, donc je reviens à Louis sur le mal alpha, parce que là aussi, bon, il y a... Alors après, il y a certaines choses qui peuvent paraître... Voilà, un peu ridicule. C'est un peu le propre, d'ailleurs, je trouve, de 28 ans plus tard. Hein, ça, on, c'est vraiment un scénario qui est vraiment sur le fil du rasoir. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. C'est mieux que le précédent, mais je suis quand même pas totalement convaincu là aussi. Mais bon, voilà, on peut dire que quand même le film, voilà, est aussi bon, voire peut-être meilleur que le précédent. Donc si vous avez aimé le précédent, celui-là, je devrais trouver pas mal quand même aussi. Voilà pour ce 28 ans plus tard, le temple des morts. Voilà, c'est difficile parce que j'ai pas envie d'être méchant, parce que c'est vrai que la mise en scène de Nia DaCosta, elle est plutôt bien, franchement. Et le film, finalement, joue vraiment, l'emporte sur ses qualités formelles et sur avec son casting. Voilà, mon cher Laurent. On va changer de sujet, puisqu'on va peut-être parler maintenant de Los Tigres. Est-ce que tu as vu ce film de Alberto Rodriguez, avec dans les rôles principaux Antonio de la Torre, Barbara Leni et Joaquin Núñez? Est-ce que tu as vu ça, Los Tigres? Alors c'est un film espagnol, hein, qui permet de retrouver Antonio de la Torre, qui est un des acteurs espagnols les plus récompensés du cinéma espagnol, parce que je crois que c'est l'acteur le plus nommé de l'histoire des Goya. Alors, les Goya, c'est l'équivalent des Césars, mais en Espagne, bien sûr. Voilà. Et là, il joue le rôle d'un scaphandrier. Enfin, c'est l'histoire d'un frère et de sa sœur, Antonio et Estrella, qui travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage.
Oui, dans la réparation.
Ils réparent les cargos.
Des navires marchands. Scaphandrier, d'ailleurs, qui n'est pas très causant, d'ailleurs. Hein, comme oui. Un personnage un peu bourru, quand même. Hein.
Oui.
et donc, il travaille aux côtés de sa sœur, hein, qui jouait par Barbara Leni, et avec qui il partage un passé familial assez compliqué. Et donc il est acculé par des problèmes financiers et il va se mettre en tête subtiliser, je dirais emprunter,
oui.
de la drogue qui est planquée en fait dans un cargo.
Oui.
Je dirais l'intrigue, est assez classique. Et par contre, peut-être classique, mais en tout cas assez original, parce que rares sont en tout cas les thrillers de cette trempe-là. Donc moi, j'ai trouvé que le décor, en tout cas l'univers, était quand même assez intéressant.
Oui.
Et que peu de films abordaient cet univers-là. Et donc, je trouve que c'est un angle d'attaque assez intéressant.
Ce qui est intéressant aussi dans le film, je ne sais pas si tu es d'accord, c'est que l'histoire, enfin la relation entre le frère et la sœur, voilà, le film prend le temps de la raconter, cette relation. Et
oui,
ça, c'est intéressant.
Oui, c'est pas un polar. De toute façon, le film flirte avec les deux heures, donc on a le temps de se poser. Et bien sûr, je dirais le détail en fait des personnages est assez intéressant. Même le patron, son patron en fait, mm-hmm. est assez bien brossé. Donc vraiment, il y a quand même cette volonté du metteur en scène de vraiment mettre en exposition ces différents personnages. Et ce qui amène véritablement à faire une montée de pression et de stress pour un thriller qui, ma foi, est totalement dépaysant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été vraiment embarqué, c'est le cas de le dire, oui. Par le film. Et franchement, jusqu'au bout, on est vraiment tenu en haleine.
Oui, et en plus, les scènes sous-marines sont plutôt bien menées. Et il y a une scène d'ailleurs assez angoissante, alors je trouve, au pied d'un barrage. On va pas en dire davantage, mais les scènes sous-marines sont quand même assez bien réalisées. Mais je pense que globalement, l'équipe a dû souffrir pour tourner, parce que ça tourner sur en pleine mer comme ça, ça doit être évident. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais bon, c'est assez immersif. On est vraiment avec eux.
C'est assez calme de dire, on est totalement immergé.
Immergé. Voilà, c'est vrai que peut-être, moi, mon regret, c'est peut-être tout de même que la partie thriller c'est le dernier tiers du film, surtout. Alors, moi, j'aurais peut-être voulu que ça soit peut-être un petit peu plus prégnant dans l'histoire. Bon, voilà, c'est peut-être mon regret. C'est pas facile, peut-être, de doser un peu tous les aspects, mais...
Oui, mais parce que le film, hein, vraiment alterne entre le thriller et aussi le drame, parce que y a aussi cette histoire avec sa compagne, hein, parce qu'ils sont donc en instance de divorce, tout ça. Donc vraiment, il y a vraiment un univers et une ambiance, une atmosphère qui permet d'aborder aussi la dramaturgie en fait du personnage principal, ses difficultés de mener de front son activité professionnelle, sa dureté aussi de professionnelle. Parce qu'on comprend bien que voilà, ça fait des années qu'il pratique en fait ce métier-là, avec bien sûr toutes les conséquences que ça peut avoir. On va pas tout détailler, mais en tout cas voilà. Donc vraiment, c'est un film qui alterne le thriller, le drame, et aussi vraiment qui dépeint un univers que l'on connaissait peu. Et donc c'est je dirais, en tout cas moi, c'est ce qui peut-être qui m'a vraiment attiré le plus, c'est pas ce côté thriller, même si voilà, c'est assez bien ficelé, mais cet univers qui est dépeint, qui est quand même très intéressant.
C'est vrai. Et puis aussi les rapports hommes-femmes qui sont montrés au travers de cette histoire entre le frère et la sœur, où les rôles à un moment donné vont s'inverser d'ailleurs, mais on n'en dit pas plus, on ne va pas spoiler.
Et puis bon, à savoir aussi qu'on peut aussi extrapoler en disant que voilà, c'est un univers qui est à 90-95% masculin.
Ah oui.
Et donc aussi, voilà, il y a aussi cet univers-là.
Ah, c'est une très belle actrice d'ailleurs, hein. Je la connaissais pas franchement, mais Barbara Lenny, que j'ai trouvé très convaincante dans le film. Ah, oui. Alors après, on change vraiment, c'est ça, c'est la magie du cinéma, hein. On voyage dans le temps et dans l'espace. Et bien maintenant, on va partir en Allemagne avec un film qui recueille un petit peu, les suffrages de la critique en tout cas, Les Échos du passé, film de Masha Chilinski avec Anna Hecht, Lena Urzendowski et Leni Geisler. Un film d'une durée assez conséquente, 2h30 de film, Les Échos du passé. Alors moi je ne l'ai pas vu, mais Laurent, tu as découvert ce film en salle.
C'est vrai.
Alors, un film qui a le prix du jury à Cannes, je crois.
Voilà, au passage. Je pense que voilà, il y a des films dans le 7e art qui ne font pas, je dirais, de compromis. Et donc, pour le coup, il y a des films de mémoire où, en fait, vous adhérez, enfin, vous rentrez dans le film ou pas, mais il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Et je crois que Les Échos du passé, en tout cas, en fait partie. J'ai en tout cas un avis, même avec le recul, qui est assez négatif. Voilà.
Oui, bah disons les choses.
Alors, je vais présenter la chose comme je l'ai vécu. C'est un film essentiellement hermétique et sombre.
Oui.
Je ne suis pas du tout rentré dans le film, mais déjà parce qu'on est perdu dans les 30 premières minutes et ça ne s'arrange pas dans les 2 heures qui suivent. Et donc du coup, on comprend quand même dans le film qu'il y a 4 histoires différentes qui se déroulent dans un même lieu, c'est-à-dire dans une ferme. Ces 4 histoires se déroulent à 4 époques différentes. Malheureusement, il est quand même assez difficile à chacune de ces scènes de savoir quand on est et qui est qui, et quel est le lien d'ailleurs entre la scène précédente de la même époque, tellement tout est entremêlé, désynchronisé, découpé. Et donc, du coup, il reste cette impression assez ténue, d'ailleurs, de rémanence d'atmosphère, de personnalité. D'ailleurs, peut-être qu'il faut sans doute renoncer, d'ailleurs, à comprendre en filigrane ce qu'a voulu dire le metteur en scène. Peut-être que c'est sa volonté de perdre, en fait, le spectateur, de se faire un avis. Peut-être d'ailleurs d'apprécier, d'avoir une explication, je dirais, un peu terre à terre de l'histoire qui nous est contée. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé le fil rouge. Hein. reste quand même de jolies scènes, parfois lugubres, parfois macabres, parfois champêtres, nautiques, festives, funèbres. Limpide et musique assez fonctionnelle qui, je dirais, habille une image qui est parfois très opaque, hein, elle est floutée, un peu statique. D'accord. Par moments. Ouais. Voilà. Donc c'est, je dirais que c'est un film peut-être oubliette, c'est-à-dire qu'en fait volontairement le metteur en scène vous oublie, ouais. vous perd un petit peu dans toutes ces histoires, et donc on a du mal à, en tout cas, à refaire surface, si on peut faire.
Après une histoire de scaphandrier.
Faire un lien avec, avec l'ostigresse.
Oui.
peut-être qu'ailleurs, il y a un contrepoint qui fait qu'entre ce flou visuel et, par moments, cette clarté des images.
D'accord.
Très, ouais, très belle. Alors, par moments, très belle prise de vue.
Ah oui, d'accord.
mais c'est quand même, au final, un résultat assez déconcertant, excessivement frustrant. Voilà, quand on n'a pas forcément d'explication, je dirais, rationnelle à donner. Et donc, quelque chose d'assez lointain qu'on a du mal aussi à saisir. Voilà. En tout cas, je l'ai perçu comme ça. C'est par moments un petit peu malaisant aussi. Parce qu'on comprend que, quand même, la destinée de ces jeunes femmes sont assez malmenées parce que. Il y a eu quand même sous-jacent, en tout cas, ce qui est un petit peu redondant, donc une certaine maltraitance, mais pas clairement, on va dire, évoquée. Mais quelles que soient les époques, cette évidence et cette réalité que, en fait, ces femmes ont obligation de se taire. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le film a eu une récompense, c'est dans le message, on va dire, qui est traité par le metteur en scène. Mais dans la forme, c'est assez indigeste. Voilà. Sur les 2h30, c'est pas un film, même pour essayer d'avoir peut-être une once de compréhension supplémentaire, c'est pas un film que je revisionnerai avec plaisir.
Bien, alors, Les Échos du passé, vous avez entendu les réticences, en tout cas les bémols, nombreux bémols de Laurent sur ce film. Mais alors dépêchez-vous, parce que si vous souhaitez tout de même aller le voir, malgré ce qui vient d'être dit, dépêchez-vous, parce qu'il n'est pas certain que le film reste longtemps à l'affiche. Hein, donc,
Il est sorti, ça fait un petit moment quand même maintenant. Ouais. Voilà. Et puis de fait sa longueur, forcément, ça limite un petit peu son exposition. Mmh. Voilà.
Alors préférez Les Scaphandriers de l'Ostigresse, ou si vous voulez vous plonger dans un monde post-apocalyptique gangréné par la violence et la folie, vous pouvez toujours aller voir 28 ans plus tard, Le Temple des Morts.
Et la semaine prochaine, on vous parlera, entre autres, de l'affaire Bojarski, qu'on a déjà eue.
Oui.
Et aussi de Greenland Migration.
Voilà. C'est un teaser pour la semaine prochaine. 22h23 à la pendule de RTF. Vous écoutez Cinéscopie, le magazine du cinéma et de la musique de film. Peut-être allons-nous écouter un petit extrait musical avant de finir l'émission.
Et bien sûr, hommage à Federico Fellini. Oui. Avec la Dolce Vita. Ah. Composée par Nino Rota.
Eh oui. Voilà. Formidable. Un grand classique.
Et donc, on va écouter le final. Allez, tout de suite, on part sur une musique un petit peu rythmée, guillerette. Ça va nous faire du bien. Et juste après, ce sont les sorties. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir à partir de mercredi sur nos écrans? Allez, tout de suite, Nino Rota. Maintenant, nous allons parler des films qui vont sortir sur nos écrans ce mercredi. Et c'est des choses intéressantes qui arrivent hein, petit à petit. Il y en aura pour tous les goûts, des blockbusters, des films plus intimistes. On sait déjà que on va aller voir certains films hein, avec Laurent. On a mis certains films sur nos tablettes. On vous retrouvera certainement dans les salles pour voir ces films. Vous pouvez nous demander des autographes d'ailleurs hein, si vous nous croisez. Bon, mon cher Laurent, donc à partir de ce mercredi, on sera quoi, le 22 janvier, 21, 22, je sais plus. Attends, 21 peut-être. On sera le 21, le 21. Et donc quelques sont quand même sortis. Une quinzaine, voilà.
Bon, oui.
Comme à l'accoutumée. Alors, donc on en parlait. Le film sort mercredi, Diamanti. De Ferzan Özpetek.
Ouais.
Donc ça, vous pourrez le visionner sur Limoges. Il est prévu, il est programmé, on le sait.
Bon, ça c'est très bien, un film italien qui se passe dans le milieu du cinéma et de la haute couture.
Tant qu'on y est, autre film, ça par contre, je ne peux pas vous assurer que ça sera projeté sur la région, En route, ce qui est un programme de court-métrage, donc ça sort le 21. Autre film, d'Akihiro Hata, Grand Ciel, qui peut être aussi un film assez intéressant.
Film japonais, je pense. Hein, qui, alors, je pense que du coup, tu vas aller le voir, parce que forcément, Grand Ciel. Non, c'est un film, je regarde.
Oui, non, non, c'est un premier long métrage.
Le réalisateur est japonais, mais en fait, c'est un film franco-luxembourgeois.
Voilà, c'est un premier long métrage qui, en fait, explore le monde du travail. Ouais. Qui peut être là encore aussi un film assez intéressant.
Avec Damien Bonnard dans le rôle principal. Ouais.
Autre film de Chloé Zhao, Hamnet.
Ah oui, alors ça c'est intéressant parce qu'on va découvrir le personnage de Shakespeare dans sa création de sa pièce Hamlet, me semble-t-il, hein, dans ce film. Apparemment, il y a de bons échos hein, sur ce Hamlet, mis en musique, je crois, par Max Richter d'ailleurs.
Oui, au passage, et la partition, la musique est déjà sortie.
Ah oui, c'est vrai.
C'est déjà dispo. Autre film, Christy and His Brother, de Brendan Canty, qui en fait, là aussi c'est un film dramatique, parce que c'est on approche en fait l'univers du cinéma social britannique, un petit peu à la Ken Loach. Voilà, oui, donc voilà, ça sort mercredi.
C'est un film irlandais quand même. Voilà.
Autre film, Dan Aemon. C'est Amour Apocalypse, pardon.
Oui, alors c'est un film canadien. Alors là, je ne sais pas, j'ai pas trop d'infos sur le film. Apparemment, c'est un film sur ce qu'on appelle l'éco-anxiété.
Voilà. Qui donc de Anne Aemon, qui avait déjà réalisé Jeune Juliette. Voilà, pour ceux qui suivent.
Une comédie, en tout cas, qui a l'air assez sympathique.
Autre film de Virgile Vernier, Imperial Princess, pardon. Celui qui était l'auteur de 100 000 milliards, qui avait été réalisé en 2024. Là, c'est un retour à Monaco pour le réalisateur. Et donc, c'est l'environnement clinquant et regardé par le truchement d'une image, la pixelisation fragile. C'est filmé au smartphone, en mode journal intime.
Voilà. Ouais. Sauf que c'est un film assez court, hein, puisque c'est plutôt un moyen métrage, il dure 48 minutes.
Oui. Ensuite, autre film de René Letzgus, c'est Ludovic. On n'a pas grand-chose sur ce film. Dernier film d'Olivier Assayas, c'est Le Mage du Kremlin. Donc,
avec Jude Law en Poutine. Hein,
oui. Autre film d'Irène Ibora Olivia, où là encore, on n'a pas trop de détails. Autre film de Johannes Roberts, c'est Primates.
Oui, Primates qui refait venir, parce que les singes au cinéma, ça a pu donner des films intéressants. On se souvient de Link, Incident de parcours. Et là, on a à nouveau un chimpanzé tueur qui officie dans ce film, Primates. Un film apparemment assez violent, d'ailleurs, puisqu'il est interdit aux moins de 16 ans.
Ensuite, film d'Orkan Azaded, c'est difficile à dire.
Azaded, oui, c'est pas évident.
Ouais. Film franco-allemand, c'est un documentaire filme à travers l'Iran et l'Azerbaïdjan, et plutôt dans les pas d'un réparateur de télévision octogénaire qui rêve de pouvoir remettre en route le vieux projecteur soviétique qu'il possède, pour réunir tous les habitants de son hameau devant un grand écran. Voilà. Ça peut être intéressant. Hein.
Oui, ça a l'air plutôt sympa. Le retour du projectionniste, oui. Bah, écoute, film documentaire un peu à la manière de... Dans l'esprit de Cinéma Paradiso. Hein.
Oui. Mmh. Et pour terminer, deux films dont on n'a pas grand-chose comme info. Tafiti de Nina Wells.
Ça, c'est un dessin animé.
Et l'autre film de Nick Chuck, Une page après l'autre.
Oui, voilà. J'ai pas d'infos sur ce film. Bon, ben voilà, il y a quand même pas mal de films assez intéressants. Bon, ben nous, on ira voir, on vous le cache pas, Diamanti, Hamnet et Le Mage du Kremlin. Peut-être Primate, parce que Primate est bien défendu par la revue Mad Movies. Voilà, bon, pourquoi pas. Eh bien, il est 22h30, bientôt 34 minutes à la pendule de RTF. C'est notre émission qui s'achève. Et on va se retrouver, ben, normalement, lundi prochain, à partir de 20h30, 20h45, pour une nouvelle émission de Cinéscopie. On vous souhaite une excellente fin de soirée à l'écoute des programmes de RTF. Et une excellente semaine dans les salles de cinéma, hein, mon cher Laurent.
Bien sûr, on vous donne rendez-vous. Nous serons à l'entrée de chaque cinéma.
Voilà, vous pouvez nous demander. On sera un plaisir de discuter avec vous.
Oui, tout à fait, débattre et d'échanger quelques idées et voilà, de quelques avis sur les films que vous avez pu voir ces derniers jours. Allez, passez une très très bonne semaine cinématographique. On vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit, même fréquence,
hein. Exactement.
95.4 sur Radio Trouble Fête.
Eh bien, ciao ciao.
Salut, bonne soirée et bonne semaine.